Bien, les enfants, reprenons notre leçon d'histoire.
Le droit européen a-t-il une histoire ?
L'Europe s'est construite comme un état de droit. L'Europe, dans sa complexité et à travers ses composantes, se construit et se reconstruit en permanence comme un état de droit.
C'est la question que vient de poser la leçon inaugurale d'Alain Wichfels du haut de la chaire européenne du Collège de France. À aucune autre époque de l'histoire, on a vu les droits nationaux particuliers d'Europe être exposés aussi rapidement, aussi fortement, à une coordination d'une telle envergure. Le mot que nous avons utilisé un moment pour désigner cette nouveauté fut celui de droit communautaire. Sur les traités fondateurs de la communauté, c'était fondé un droit qui était surtout économique. Puis la communauté est devenue union, ses compétences se sont élargies. Une autre source enfin a agi, celle issue de la Convention européenne des droits de l'homme. Ces nouveaux ordres juridiques ont progressivement diffusé dans les droits nationaux et jusque très loin. Dans ces conditions, comment faire une histoire du droit européen ? Une tentation serait de postuler que depuis la plus haute antiquité existe un socle commun qu'on retrouverait aujourd'hui. Ce n'est pas si facile à démontrer. Une facilité serait de dire que le droit européen est une matière inédite, fabriquée de neuf. C'est avantageux parce que ça permet de créer une discipline universitaire avec toutes les satisfactions vaniteuses que cela accorde à ceux qui la portent sur les fonts baptismaux. Dans l'ordre politique, pareillement, certains ont songé à une constitution européenne, à un code civil européen. Mais quand on veut particulariser le droit européen, le mettre sur les mêmes rails que les droits nationaux, va-t-on dans la bonne direction ?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Alain Wichfels, donc titulaire de cette chaire européenne cette année au Collège de France. Alors quand vous êtes docteur d'Amsterdam, comment prononce-t-on votre nom ?
Le nom se prononce à la néerlandaise ou à la flamande par Wichfels, mais c'est un nom qui se prête à des prononciations très différentes d'un pays à l'autre.
Quand vous êtes docteur de Cambridge, ce que vous êtes, comment dit-on ?
Oh, les Anglais auront une prononciation du type de Wichfels, quelque chose comme ça.
Alors vous enseignez aux Pays-Bas, vous enseignez en Belgique où vous habitez l'essentiel du temps, vous avez enseigné en Italie. Très impressionnant votre pedigree. Et alors, je vous préviens, vous avez en face de vous quelqu'un qui ne sait rien dans ce domaine et peut-être y a-t-il quelques-uns de nos auditeurs qui savent peu. Mais alors, ça vous aimez ? Quand on a face à soi des auditeurs qui ne sont pas formés, bah c'est une chance. Vous dites ça ?
Tout à fait. D'ailleurs, j'ai l'habitude, puisque j'enseigne à de très nombreux étudiants en droit de première année. Ça fait donc plusieurs centaines, parfois quelques milliers d'étudiants sur différents campus. Des étudiants qui parfois commencent dès la première semaine et il faut donc les introduire par le biais de l'histoire à ce qu'est le droit. Comment penser le droit ?
Alors par le biais de l'histoire, nous allons procéder ainsi. Dans les projets de construction européenne poursuivis au lendemain de la Seconde Guerre, on dit il y a sans doute un socle commun, antique, le socle du droit romain. Mais attendez, hein, on est en première année, hein, faut que vous précisiez.
Tout à fait, mais même, vous savez, des collègues qui sont d'excellents juristes se plaisent de se référer à un ancien jus commune, un ancien droit commun. Et ma question est toujours, en tant qu'historien, de quel droit romain, de quel jus commune voulez-vous parler ? Car en fait, c'est une histoire qui, même sans remonter à l'Antiquité, mais à partir du second Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe, et même pour certains pays comme l'Allemagne, le XIXe siècle, c'est une histoire où on voit que le droit romain a été l'objet de plusieurs constructions, de plusieurs modes de pensée différents. L'image que j'utilise justement pour ces étudiants de première année qui n'ont encore rien appris du droit, c'est le droit romain, c'est tout d'abord des matériaux, c'est des textes qu'on a récupéré de l'Antiquité. Et ces textes ont été reconstruits de différentes manières, différentes périodes. Alors ce que je remontre d'abord, parce que sinon ça fait trop abstrait, c'est je remontre des monuments, des grands édifices de la culture européenne à travers les âges. Je prends Vézelay, je prends Chartres, je prends le Palazzo Farnese, je prends Bussy-Rabutin, je prends Versailles.
Parce que vous avez une maison en Bourgogne.
En effet. Et puis je termine par Versailles en disant que chaque fois, ces monuments, bon, c'est les pierres qui ont permis une construction tout à fait différente, un agencement tout différent. Cela représente un état de la culture, mais aussi de l'histoire économique, d'histoire politique, tout à fait différent. Et en fait, quand on parle du droit romain, c'est exactement la même chose. On peut vous montrer des constructions du droit romain, alors évidemment ça fait un peu plus abstrait, qui tantôt ressemblent plutôt à Vézelay et ainsi de suite jusqu'à Versailles.
Parce que les pierres réemployées le sont dans des langues différentes. Alors vous connaissez toutes les langues, ça va ?
Alors là, vous touchez à un élément très important et qui présente pratiquement une question d'actualité, c'est que ce droit romain, évidemment, il était en latin et que la culture juridique, que la science juridique, s'est dans une très grande mesure exprimée à travers toute l'Europe, du moins l'Europe occidentale, en latin. Il y avait quand même, pour les scientifiques, pour les juristes, il y avait non seulement les mêmes matériaux, mais aussi la même langue.
Et maintenant, les traductions sont toujours, comment dire, fautives ?
Je ne dirais pas, mais je dirais que...
Les langues sont irréductibles, Alain Michel.
Premièrement, on ne peut pas tout traduire. Ce qu'on a en traduction est tout assez restreint. Et puis, une traduction, c'est une aide, mais je crois toujours que par une traduction, on n'arrive jamais véritablement à pénétrer dans l'autre culture, dans l'autre pays. C'est le grand problème. Combien de langues peut-on connaître ? Ça dépend évidemment des talents, mais même si on connaît plusieurs langues, il y aura toujours en Europe de nombreuses autres langues qu'on ne maîtrise pas, et donc qui posent le problème, comment est-ce qu'on a accès à cette culture ?
Alors dans le socle commun, il y avait une faille, comment dire, une summa divisio, j'essaye de parler latin comme vous, hein. Les droits des pays continentaux d'un côté, et puis le droit insulaire anglais. Une grande conférence de la radio française de 1957 avec le professeur Duhamel.
Excellences, mesdames, messieurs, discourir de la contribution du droit romain à la civilisation et de tous les droits qui en découlent serait bien inutile, vous la connaissez. Par contre, on sait sans doute moins la place que tient le droit anglais dans cet apport. Cette étude, disons le mot, est rebutante pour le français. Le langage juridique anglais reste archaïque. Il n'y a pas de codes généraux. Il n'y a que des tronçons de codes. Et puis, si un chercheur veut remonter aux principes, aux synthèses qui nous sont chères, sa quête sera peu féconde, parce que l'esprit anglais est analytique. Et que ces constructions, et ici spécialement ces constructions juridiques, se sont élevées au cours des âges selon les événements. Il n'en est pas moins certain que ces constructions juridiques anglaises sont des plus puissantes, et il faut leur reconnaître leur mérite. Un jardin dessiné par le nôtre est une belle chose, mais une belle chose aussi est un jardin anglais. Il est plus près de la nature, de même que les constructions dont nous parlons sont plus près de la nature des choses.
Vous ne pouvez pas reprocher à votre collègue aïeul d'utiliser comme vous des images.
Pas
vous,
du tout.
C'était les monuments, lui, c'est le jardin anglais, le jardin français. C'est valable comme
image ? C'est une image que je vais tout à fait utiliser, mais je vais l'utiliser dans un autre sens. Parce que ici, elle est utilisée pour un contraste où l'on dirait qu'il y a quelque chose de très développé, d'artificiel presque, dans le jardin à la française, alors que, on vient de l'entendre, le jardin à l'anglaise serait naturel. En fait, le paradoxe, c'est que le nôtre et les autres jardins à la française voulaient retrouver, je prends ici les termes d'un très célèbre juriste français, fin 17e, qui a eu beaucoup de succès et qui a été souvent répété, c'était que c'était un ordre naturel. Alors que, du côté anglais, on a insisté sur le fait que le jardin à l'anglaise était extrêmement artificiel, parce que tout était prédéterminé. Et en ce sens, je crois que c'est une belle image, mais dans un autre sens que celui qu'on vient de l'entendre dans cet extrait.
Alors, ce qui vous intéresse, vous, quand vous faites l'histoire du droit en Europe dans les temps modernes, au sens historien du mot, 16e, 17e, 18e siècle, c'est les interactions qui peuvent se produire. Dans votre leçon inaugurale au Collège de France, vous annoncez, par exemple, des exemplifications. Et nous avons choisi l'exemple de 1607 que nous avons, à notre manière, mis en scène. C'est un dossier que vous avez trouvé à la haute cour de l'amirauté à Londres, dont vous avez étudié les archives. Écoutez bien.
1607. Une galère vénitienne est partie de Chypre chargée de marchandises. Un bateau de pirates s'en saisit. Il est commandé par un Anglais. Les pirates, pour écouler le butin, se rendent sur la côte de Barbarie. Les janissaires de Tunis les laissent l'échanger à des marchands anglais qui s'en vont à leur tour le vendre à Londres. L'ambassadeur de Venise à Londres se rend auprès de la haute amirauté anglaise pour réclamer la restitution des biens capturés sur la galère.
Votre souverain Jacques Ier aurait tout à gagner à voir cette histoire se conclure rapidement et de façon heureuse. Il adresserait un message positif à ses alliés et enverrait un signal fort aux bandits qui infestent la Méditerranée. D'autant plus que, si je ne m'abuse, le commandant de ce navire pirate était lui-même anglais.
Admettez-vous la nécessité de régler cette affaire devant la justice ?
Cela me paraît effectivement inévitable. Mais une confrontation devant la cour du droit anglais et du droit vénitien ne va-t-elle pas aboutir à une cacophonie ?
Alors, devant une cour en Angleterre, face à face, les représentants des propriétaires vénitiens qui ont été volés et les représentants des marchands anglais qui disent avoir, en toute bonne foi, acheté ces biens d'une origine inconnue. Et ça se passe à Londres. Ça se passe dans quelle tradition juridique, d'ailleurs ?
Justement, le droit anglais a connu plusieurs traditions juridiques. Ah. La principale était celle de la common law. C'était le droit particulier à l'échelle de l'Angleterre et du Pays de Galles. À côté de ça, ils ont développé, qui existe toujours, la tradition du droit selon l'équité, mais dans un sens très positif. Et puis, mais tout à fait dans la marge, il y avait également, comme sur l'Europe continentale, la tradition romaniste. Et justement, pour les affaires qui avaient un caractère international, cette poche juridictionnelle où l'on appliquait le droit romain comme on appliquait le droit romain dans beaucoup d'autres pays continentaux était appliquée. Donc en ce sens, il ne s'agit pas d'un cas où on peut dire qu'il y avait cacophonie entre le...
Mais vous dites quand même qu'il y a partage. Et il y a des représentants qui connaissent le droit romain, qui défendent le point de vue des uns et des autres. Un professeur d'Oxford, des professeurs de Padoue qui envoient un avis.
Et justement, pour assurer cette interaction au niveau judiciaire, il fallait que les gens parlent le même langage. Alors pas seulement le latin, mais il fallait aussi qu'ils aient les mêmes références, qu'ils aient le même droit qu'ils appliquent. Et c'était justement cette science juridique basée sur le droit romain qui, dans ce cas-là, était utilisée, auquel on se référait de part et d'autre.
Alors on avançait point par point. Est-ce que le marchand anglais peut prouver sa bonne foi ? Un autre point, est-ce que les biens qui sont vendus à Londres, ce sont vraiment ceux arrivés à Tunis ? Et donc là, on discutait.
On discute, mais on discute comme si on était dans une cour continentale, c'est-à-dire en se référant entièrement à la tradition du droit romain qui était enseignée à Oxford et à Cambridge depuis des siècles, mais qui n'était pas appliqué dans la grande majorité des cours et des cas de la pratique judiciaire anglaise, qui était l'apanage des cours de common law.
Alors, le droit européen a-t-il une histoire ? Là, on n'est pas vraiment dans le droit européen, mais on commence à dégager des caractéristiques susceptibles d'être partagées en même temps. Vous nous avez mené en bateau, parce que c'est un exemple marginal. Il s'agit de droit des affaires, en plus.
Tout à fait. Les exemples que j'ai donnés n'étaient pas représentatifs à cet égard parce que c'était une solution de facilité. Dans le cadre du droit des affaires pour les marchands, l'attachement à un droit particulier est beaucoup moins important que, par exemple, le grand propriétaire foncier qui veut que, dans son pays, qu'il soit certain comment le patrimoine lignager succède, soit aliéné, et ainsi de suite.
Dans le dur, alors, pas dans les conjonctures, les occurrences conjoncturelles du commerce.
Je dirais que c'est surtout une manière, là, pour pouvoir gérer des types de conflits et, au niveau international, dans les affaires, ce droit romain se prêtait très bien parce que justement, il était largement partagé. On le voit même en Angleterre, où la pénétration du droit romain a été minime. Eh bien, on était disposé pour la résolution des conflits, la gestion des conflits, de faire appel à ce droit romain.
Mine de rien, on est en train, Alain Wichfels, de soulever des questions chaudes aujourd'hui. On notera, comme ça, au passage, que l'européanisation des droits des affaires, c'est comme ça qu'a commencé le droit communautaire au moment de la construction des communautés, c'est plus facilement réalisable que une européanisation des droits nationaux plus profonde. On fait une pause, vous voulez bien? Vous venez ici pour la deuxième fois, la première fois vous aviez 14 ans, votre père vous a fait visiter la maison de la radio de l'extérieur, vous avez fait le tour, elle était toute neuve, c'est à cette époque-là que depuis les terrasses, je vous ai fait visiter la maison, hein, mais que depuis les terrasses, qui sont inaccessibles maintenant, chantait Dionne Warwick. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Le droit européen et son histoire. On va aborder le temps communautaire maintenant, mais l'Europe, elle a plusieurs cercles. Ici, c'était la musique d'Eurovision. Il faudrait parler du cercle du Conseil de l'Europe et puis le distinguer de celui de la Communauté européenne et puis de l'Union européenne dans sa suite. Le droit européen a-t-il une histoire, Alain Wichfels? C'est le thème de vos cours à la chaire européenne du Collège de France. Alors, on entend parler sans cesse de souveraineté. Vous vous inscrivez dans la longue durée et vous dites que même dans le cadre national français, si on prend cet exemple, la souveraineté fut longtemps partagée.
Tout à fait. C'est un phénomène qui n'est d'ailleurs pas une spécificité française. Mais l'histoire française l'illustre très bien. En résumé, alors, avec tout ce que cela comporte de simplification, on peut dire que, second Moyen-Âge, le modèle qui prédominait était un modèle de souveraineté concurrente. Et quand je dis souveraineté concurrente, c'est au pluriel. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs centres de pouvoir qui étaient légitimes et qui devaient interagir, mais qui, au total, en fait, se partageaient la souveraineté. La transition vers les temps modernes a été caractérisée, d'une manière générale de nouveau, par une concentration de cette souveraineté. On est plutôt passé vers un modèle de souveraineté exclusive, qui pouvait être entre les mains d'un monarque, le roi de France par exemple, ou d'une institution comme par exemple le Parlement anglais après la Glorieuse Révolution. À la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, on maintient ce modèle de souveraineté exclusive, mais on va transférer vers la nation ou vers le peuple. Ça a été ce qui a caractérisé les deux siècles presque qui ont suivi. Je dis presque parce que Qu'est-ce qu'on constate durant la seconde moitié du XXe siècle, et ça s'est un peu accéléré durant le dernier quart du XXe siècle, cela coïncide, donc c'est vraiment du temps présent, ça coïncide même avec l'époque où moi j'étais étudiant et que j'étais enseignant en droit, c'est un nouvel éclatement de cette souveraineté qui va de nouveau être partagé. C'est-à-dire que, au-dessus de la nation, il y avoir des instances qui vont en fait exercer des pouvoirs qui étaient autrefois attribués à cet État-nation. Par exemple, en matière de défense, on peut se référer à l'OTAN, ou dans le cadre économique, social même, on peut se référer à l'Union européenne. Mais ce n'est pas qu'au niveau supranational, comme il existait au Moyen-Âge, souverainetés parfois théoriques, parfois réelles, que ce fût la papauté ou l'empereur, mais c'est aussi au niveau infranational, le développement, une certaine émancipation des régions, et ce n'est pas une spécificité exclusive française, le fait que beaucoup d'attributions de la souveraineté de l'État-nation ont en fait été transférées au cours des dernières décennies du XXe siècle, à d'autres acteurs.
Alors, une dialectique subtile, donc, entre la réalité de la souveraineté partagée et puis le modèle de la souveraineté exclusive. Alors là, vous vous livrez à une sorte de critique à contre-pied du droit européen tel qu'il se construit, surtout à partir du moment où il y a l'Union européenne. Vous dites que c'est une illusion en temps de souveraineté partagée que de vouloir créer un droit européen sur le modèle national centralisé. Je vais vous prendre un exemple qu'on a un peu oublié, mais pourtant il est moteur dans la crise du sentiment européen en France aujourd'hui. C'est celui de 2005. Vous vous souvenez que l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, avait piloté avec une convention un projet de constitution européenne.
Bon, d'abord un mot, enfin, c'est pas un texte personnel, je ne voudrais pas qu'on croie ça, c'est une œuvre collective. Tout ça s'est passé au grand jour. Au grand jour, on débattait publiquement, dans les journalistes, tout était sur Internet. Une convention qui comprenait 105 personnes de toute l'Europe, de tous les partis politiques, de toutes les forces sociales.
Mais vous y avez travaillé pendant 2 ans et demi.
On l'a travaillé, voilà. Bien. Moi, j'ai travaillé à fond, je m'y suis évidemment beaucoup donné. Alors, qu'est-ce que la Constitution apporte? D'abord, c'est une demande, la Constitution. On nous a demandé de faire une Constitution pour corriger la situation de l'Europe. Si la situation de l'Europe était parfaite, après tout, il n'y a pas besoin de faire cette Constitution. Un seul texte, au lieu de 5 traités, de je ne sais combien de traités d'adhésion, 19 traités d'adhésion, donc un seul texte, désormais, cohérent. Avec une définition claire, on n'en parle jamais, c'est très important, des compétences respectives de l'Union européenne et des États membres. Et on ne dit jamais, je ne sais pas pourquoi, aux Français, ce qu'ils vont garder comme compétences. C'est très important, l'éducation, la santé, le droit des personnes, etc. Le système européen, on donne des attributions à l'Union. On lui confère ensemble. Quand on le lui confère, si l'Europe prend des décisions suivant naturellement les règles constitutionnelles, il est évident que ces décisions s'imposent aux textes nationaux, parce que sinon ce serait une pagaille invraisemblable. Vous auriez 25 législations nationales et une législation européenne. Mais la phrase clé qu'on ne cite jamais, c'est dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à l'Union, et c'est tout.
Voilà, comme il y a un drapeau, un hymne, vous dites, Alain Wichels, que ce sont peut-être des gadgets, l'idée qu'il doit y avoir une constitution, un traité simple, pas de pagaille. C'est une mauvaise idée de vouloir mettre le droit européen sur les rails des droits nationaux, centralisés.
Alors, votre extrait a évoqué des souvenirs d'il y a 12 ans, 2005, printemps 2005. Je devais pour la première fois donner un cours d'histoire du droit public en Europe, à l'Aisne, aux Pays-Bas. Je voyageais entre la France et les Pays-Bas pendant qu'il y avait tout le débat sur les référendums qui ont été organisés sur ce projet de constitution européenne en France et aux Pays-Bas et qui, dans les deux pays, se sont soldés par un échec pour ce projet. Ce qui m'a frappé lors de ces débats, c'était que en France, aux Pays-Bas, mais aussi dans d'autres pays européens, on envisageait cette constitution européenne de manière très différente. Pourquoi ? Parce que l'idée qu'on se fait d'une constitution est très différente d'un pays à l'autre, c'est ancré dans une tradition politique, dans une histoire politique qui est évidemment nationale. Et à partir de là, de cette expérience politique nationale, on a d'autres conceptions de la Constitution. Donc ça, c'est un premier point. Il faut se demander si l'idée même, la conception même d'une Constitution n'est pas trop liée à ce que nous avons créé à partir de la fin du XVIIIe siècle, XIXe siècle, comme des États-nations, tout comme d'autres instruments juridiques qui sont des instruments de l'État-nation. Et je ne suis pas certain que l'on puisse simplement transposer ces instruments qui ont été des instruments peut-être très performants, peut-être très utiles pour les États-nations, à l'Union européenne, parce que je ne crois pas que l'Union européenne doit être vue comme une espèce de super-État, comme une sorte d'État-nation au-dessus des États-nations.
Eh bien alors, c'est tellement plus passionnant, comme vous le faisiez avec les archives de la haute cour de l'amirauté à Londres pour le XVIIe siècle, de dégager des caractéristiques susceptibles d'être partagées, en étant en marche, vous voyez, un pas après l'autre, en regardant à droite et à gauche, en faisant du droit comparé.
Exactement. Je crois que le droit comparé, qui n'est pas un droit, comme on l'entend, ce n'est pas un droit comme, disons, le droit européen, le droit français, le droit allemand, ce n'est pas un droit que vous pouvez appliquer. C'est une science, c'est une méthode, c'est une manière de voir comment, quelles sont les solutions qu'on trouve juridiquement, comment on pense, surtout, dans différents ordres juridiques. C'est surtout cette démarche-là qui m'intéresse. C'est le fait que si vous allez comparer des aspects, des intérêts en droit français avec des intérêts en droit allemand ou en droit scandinave ou en droit anglais ou en droit italien, que sais-je, ou même en dehors de l'Europe, c'est que cela vous oblige d'entrer dans ce système, dans le mode de pensée. Alors c'est très difficile parce qu'il y a déjà ce que nous avons évoqué, le problème de la langue, mais il y a aussi toute la culture juridique. Les modes de raisonnement sont différents. Quand on a parlé d'une constitution européenne, quand on a parlé, et on en parle parfois encore, d'un code civil européen, il y a là un texte, mais on n'a aucune garantie que ce texte va être compris, interprété, que les raisonnements qui vont se greffer sur ce texte seront les mêmes d'une culture juridique à l'autre. Et le droit comparé, justement, a la grande promesse, je crois, qu'il peut aider à pénétrer dans ces autres cultures juridiques et ainsi à contribuer à une culture juridique européenne.
Oui, mais dites-moi une question d'étudiant de première année, Alain Wichtel. Moi, je lis qu'il y a primauté du droit européen, y compris sur les normes constitutionnelles. Alors, je ne sais pas comment on peut coordonner les primautés, mais ça, c'est une question d'étudiant de première année qui vous agace, d'ailleurs.
C'est-à-dire, elle m'agace parce que j'ai vécu, sur 40 ans d'enseignement, la période, au départ, où des étudiants en droit, très rapidement, après quelques semaines, avaient subi, pour ainsi dire, ce que j'appelais, avec un peu de provocation, un lavage de cerveau, où ils admettaient sans plus que, ah oui, si la loi nationale était contraire à la norme du droit européen, elle n'était pas applicable. Je vois maintenant que de plus en plus de jeunes vont accepter exactement le contraire, ou vont être contraints. Mais avec aussi peu de sens critique. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut justement chaque fois repenser ce qu'est une souveraineté, ce qu'est une union. Et il y a là toute une gradation, c'est là toute la complexité. La question n'est pas simplement d'avoir des États souverains d'un côté et une union qui serait fédérale, confédérale ou qui serait sui generis d'un autre côté. Il faut voir comment une gouvernance publique qui s'articule à plusieurs échelons, comment elle peut justement mettre en accord, coordonner ces différentes normes. En France, parce qu'il y a justement une tradition très centralisatrice, on est peut-être moins sensible que, par exemple, les juristes allemands, qui ont une très grande expérience, très longue expérience, de différents régimes, de différents types d'unions, et pour lesquels l'équilibre qui doit être retrouvé entre une norme supranationale et une norme nationale est plus compréhensible parce qu'ils connaissent ça à partir de leur ordre interne.
On peut terminer avec un adage qui servira d'exergue à vos cours de la chaire européenne du Collège de France. Écoutez bien, chers auditeurs, une culture juridique transnationale, sans culture juridique nationale, ça ne vaut pas grand-chose, mais une culture juridique nationale sans culture juridique transnationale, alors là, ça vaut rien. Nous sommes d'accord.
C'est bien l'idée que je voulais vous exprimer.
Merci à vous. Cette émission a été préparée par l'équipe de La Marche de l'Histoire avec Valérie Estaraï à la réalisation, Élodie Royer à la technique, Frédéric Martin à la préparation.